Ah, la motivation. On la pointe souvent du doigt. On se trouve moins motivé que les autres ou juste moins motivé qu'on l'était au début de l'année. Mais comment on fait ça, par exemple, augmenter la motivation des ados envers l'activité physique? Bienvenue au balado à chacune son terrain de jeu. Je suis Émilie Duquette.
Et moi, je suis Geneviève Leduc de chez Filles Actives. Avec nos invités dans cet épisode-ci, on va parler de motivation, tout en mettant la lumière sur les aspects sociaux de la pratique sportive des adolescentes, parce que ces deux éléments vont main dans la main.
L'activité physique, c'est un moyen formidable pour entrer en relation avec les autres. Et Geneviève, il sera question aujourd'hui des amitiés et des modèles avec nos invités.
Oui, absolument, parce que quand on regarde les raisons qui font en sorte que les filles persévèrent dans leur activité ou qu'elles acceptent d'essayer même quelque chose de nouveau, on retrouve les amis. Les relations de qualité avec l'entraîneur, avec les enseignants et tous les adultes qui sont là pour entourer l'ado sont aussi super importantes. Bref, un entourage bienveillant, ça peut faire toute la différence dans cette fameuse motivation qui est parfois si difficile à trouver.
Dans cet épisode, on se penche sur les aspects sociaux de la pratique sportive des ados et on va aussi parler de motivation. Notre première invitée est professeure adjointe à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheure au Centre de recherche du CHUM. Ses champs d'expertise portent sur l'activité physique et la santé mentale. Isabelle Doré, merci de te joindre à nous.
Merci à vous pour l'invitation.
Isabelle, ne pas être motivée, c'est une raison qu'on entend souvent chez les adolescentes, mais aussi chez les adultes. Et même si on sait que c'est important et qu'il y a plein de bienfaits à faire de l'activité physique, bien, souvent, on sent qu'on n'est pas assez motivé. D'abord, c'est quoi le concept de la motivation?
C'est une super bonne question. En fait, on définit la motivation comme étant une espèce de continuum qui peut aller de motivation plus intrinsèque, donc le désir de faire de l'activité physique pour le simple fait d'en retirer des bénéfices pour avoir du plaisir, pour prendre soin de soi, jusqu'à des motivations qui sont plus extrinsèques, où là, on se fie vraiment sur les récompenses qu'on peut retirer du fait de faire la pratique d'activité physique. Donc, que ce soit l'obtention d'une médaille, que ce soit, par exemple, un prix qu'on peut gagner ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui est externe à nous. Ce qu'on sait en lien avec la santé mentale, c'est que les motivations plus intrinsèques sont beaucoup plus favorables à la santé mentale comparativement aux motivations qui sont davantage extrinsèques. L'autre dimension, puis on va sûrement en reparler, c'est plus la question des motifs puis des raisons qui nous amènent à faire de l'activité physique. Puis ça, c'est distinct un peu du continuum de motivation.
Bien, déjà dans ton explication, ce qu'il faut réaliser, je pense, c'est que, Émilie, tu l'as posé dans ta question, hein, parfois on a l'impression d'être peu motivé. Tu sais, comme si la motivation, c'est un niveau sur une échelle verticale là, qui passe de 0 à 100. Soit je suis très peu motivé à 0 ou je suis très motivé au niveau 100. Alors que là, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas le visuel. Mais Isabelle, tu nous as fait un peu une ligne horizontale. Hein, tu as placé à gauche ou à droite la motivation intrinsèque ou la motivation extrinsèque. Donc, il y a quelque chose à démolir déjà hein, dans ce mythe d'être très peu motivé ou d'être beaucoup motivé. Donc, tu as parlé de qualité ou de sorte de motivation. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est différent peut-être pour nos auditeurs.
Et justement, tu as parlé des motifs. Moi, je suis curieuse de t'entendre. Quels sont-ils?
On distingue principalement 5 motifs à la pratique de l'activité physique. Puis quand on parle de motifs, on parle de raisons, en fait, pour lesquelles on choisit d'être actif ou de demeurer actif. Ceux dont on entend le plus souvent parler sont les motifs reliés à l'apparence physique, par exemple, au sentiment de compétence, donc le désir de faire une activité, mais d'accroître son sentiment de compétence, sa capacité à maîtriser la situation, le plaisir, l'aspect social et tout ce qui est relié au fait de sa condition physique, prendre soin de sa condition physique. Donc, c'est les 5 principaux motifs ou raisons qu'on distingue en lien avec la pratique d'activité physique.
Et quand tu regardes là, les jeunes filles en particulier, les adolescentes, souvent, on va les entendre dire qu'elles ne sont pas très motivées. Comme parents, tu as une grande fille, elle arrive, elle dit « Non, je ne suis pas motivée de faire mon sport. » Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça?
C'est une très bonne question. Je pense que dans l'activité physique, il y a 2 aspects. Il y a débuter, adopter un mode de vie actif, puis il y a rester actif. Donc, souvent, en lien avec les motivations, on associe beaucoup certaines motivations comme les motivations liées à l'apparence physique comme étant de grands motivateurs pour débuter une activité, mais on se rend compte que ça ne perdure pas à travers le temps. Ce n'est pas une bonne raison d'être actif et de demeurer actif. Vous en avez parlé en introduction tout à l'heure, l'aspect social chez les jeunes filles est excessivement important. Puis là, je suis extrêmement biaisée parce que je m'y intéresse beaucoup dans ma recherche, ouais. mais je m'y intéresse beaucoup au niveau personnel, dans mes activités, que ce soit avec des amis, mais avec mes enfants également. L'aspect social chez les jeunes filles, et ce n'est pas juste mon expérience personnelle, les études sont vraiment très concluantes à ce sujet-là, c'est la raison numéro un qui fait en sorte que les jeunes filles vont adopter l'activité physique, donc débuter la pratique d'une activité physique et maintenir cette pratique d'activité physique sur le long terme. Donc, plus l'aspect social prend de l'importance comme raison pour être active, plus elles sont susceptibles de rester actives à travers le temps.
Il y a l'aspect social, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi qu'on va particulièrement aborder avec les filles pour les encourager à être actives physiquement et surtout trouver cette motivation-là?
Je pense que chez les jeunes adolescentes, on ne se cachera pas que le souci de l'apparence physique est extrêmement important. Puis il y a quelque chose à déconstruire à ce niveau-là, puis peut-être donner davantage d'importance au plaisir. Donc, je pense que l'aspect social, c'est un aspect de contexte qu'on peut essayer de créer, mais le plaisir qu'on ressent à faire de l'activité physique, pour les gens qui ne l'ont jamais expérimenté, c'est très difficile à percevoir. Donc, souvent, on dit l'essayer, c'est l'adopter. C'est très cliché comme phrase, mais c'est vrai que petit à petit, en l'essayant, les jeunes filles pourront expérimenter puis faire l'expérience réelle du plaisir qu'elles ont à être avec d'autres ou juste à bouger, tout simplement.
Fait qu'il faut soigner nos contextes de pratique, évidemment, là, parce que pour plusieurs jeunes filles, malheureusement, là, c'est ce qu'on voit, entre autres, chez Filles Actives, parmi certaines participantes qui ont de la difficulté à le trouver, ce plaisir-là, juste parce qu'ils n'ont pas été placés encore dans un contexte qui leur convenait, tout simplement.
Tu as tout à fait raison, Geneviève. Puis je pense qu'on en parle de plus en plus, mais on offre à nos jeunes filles des opportunités lorsqu'elles sont plus jeunes, au primaire notamment, des contextes d'activité physique dans le milieu scolaire qui sont très traditionnels. On commence à se diversifier. Moi, je le vois avec mes enfants, il y a des nouvelles activités, mais très rarement, on va proposer dans le cours d'éducation physique un cours de danse, par exemple. Puis l'idée, c'est pas de faire un cliché que les filles aiment la danse puis les garçons aiment le basketball ou le hockey. C'est pas du tout ça, mais on n'expose pas nos jeunes à une diversité très grande d'activités physiques. Je pense qu'il y a des progrès énormes qui sont faits, mais effectivement, c'est en essayant différentes choses, en donnant notamment une place aux activités de plein air qui rejoignent beaucoup, beaucoup les jeunes filles, mais aussi beaucoup, beaucoup de jeunes garçons qui ne sont pas nécessairement attirés par des sports plus traditionnels qu'on enseigne, comme le hockey, le basketball ou le badminton, par exemple.
Toi qui es mère de deux filles, qu'est-ce que tu penses du rôle du parent vis-à-vis ses enfants? Parce qu'on a tendance à croire que quand les jeunes, puis des fois c'est vrai, à l'adolescence, le canal de communication peut être plus difficile, mais c'est pas toujours le cas. Je pense que parfois cette relation-là, elle est là, elle est peut-être juste pas entretenue. Quel est le rôle du parent?
C'est super intéressant. Je pense que je dis ça à chaque fois parce que je trouve vos questions super intéressantes.
C'est un sujet qui nous passionne toutes.
Oui,
hein?
Vraiment, définitivement. Clairement, pour commencer, le parent a un rôle clé dans la pratique d'activité physique en termes de soutien. Puis je pense que ça peut se produire de deux manières. Si le parent est plus ou moins actif ou inactif, le fait de soutenir son jeune dans la pratique d'activité physique, c'est déjà un pas énorme. Si le parent est une figure inspirante d'activité physique, je pense que définitivement, là, on sait que ça a un impact majeur sur la pratique d'activité physique des jeunes et probablement tout particulièrement pour les jeunes filles et les jeunes garçons durant la période de l'adolescence. On peut le voir à l'inverse, l'activité physique, c'est peut-être une occasion de maintenir les relations de proximité avec nos jeunes également. Puis, j'ai posé la question justement à ma fille par rapport à ça, puis je lui demandais, qu'est-ce que ça te fait d'avoir une mère qui est active, mais qui prend plaisir à l'en faire avec toi. Puis elle me disait, c'est tellement inspirant, maman. Puis ça a été tellement spontané. Puis j'ai trouvé ça agréable parce qu'elle me l'a dit par rapport à moi, mais par rapport à d'autres mères de ses amis dans son entourage. Donc, ça confirme un peu, c'est documenté dans la littérature, mais de l'entendre de gens qui sont proches de nous, je trouve ça excessivement touchant de voir que comme parents, de nous voir prendre plaisir à faire de l'activité physique, puis je le fais avec mes enfants, mais ma fille me disait, quand je te vois revenir de tes matchs de frisbee ou des choses comme ça, je trouve ça super le fun de voir les liens que tu entretiens, puis tu es super contente, puis tu en parles, puis tu es enjouée. Donc, je me rends compte qu'il y a un aspect qui est contagieux par rapport à ça. Puis, on n'a pas besoin d'être des grands athlètes. Je ne suis pas une grande athlète pour ma part. Je fais du sport récréatif pour le plaisir en grande partie, pour essayer de diminuer justement le stress puis la fatigue liée au travail. Mais de voir que c'est une source d'inspiration d'une certaine façon pour les enfants, c'est très intéressant.
Puis dans les familles, tout autant que dans les milieux scolaires et ainsi de suite, c'est souvent les hommes qui portent ce modèle-là de la personne qui est active. Hein, le papa actif, on se l'imagine bien, ce modèle-là, mais la mère active, même si on n'est pas des grandes sportives, hein, il y a peut-être des mères qui nous écoutent présentement puis qui ont l'impression que ben, c'est pas elle, hein, cette grande sportive, qui revient, par exemple, de son match de frisbee. Mais sauf qu'à notre mesure, il y a moyen quand même de jouer ce rôle-là de modèle-là dans un contexte qui nous fait plaisir à nous aussi. Puis c'est le fun que les femmes jouent ce rôle-là aussi.
Tout à fait. Puis je pense que c'est important aussi de respecter qui on est comme personne. Puis je pense pas que les femmes sont toutes similaires ou les hommes sont tous similaires, mais je pense que, par exemple, moi, me tirailler avec mes enfants quand ils étaient petits, c'était pas une activité que je faisais, alors que mon conjoint le faisait énormément. D'autre part, d'autres activités comme aller marcher en forêt ou faire des choses comme ça me rejoignent beaucoup plus. Fait que de respecter ce qu'on aime, nous, puis de transmettre ses propres passions. C'est très difficile de transmettre quelque chose qu'on n'aime pas. Fait que ça, je pense que c'est super important d'être en accord avec ses valeurs puis avec ses intérêts qui sont propres. Puis je pense que Geneviève, tu fais bien de le mentionner. L'idée, c'est d'être active et non nécessairement d'être sportive. Puis ça, cette distinction-là, pour moi, elle est excessivement importante. D'aller prendre une marche, faire une randonnée, aller nager à la limite ensemble, faire des petites choses comme ça au quotidien avec ses enfants, je pense que c'est d'extrêmement beaux exemples. Et on n'a pas besoin, comme tu le dis, d'être une grande sportive ou une athlète ou quoi que ce soit pour être une source d'inspiration.
Isabelle, veux-tu m'adopter? Je vais aller marcher avec
on
toi.
A
on
le va goût jaser d'aller en forêt.
La pluie du beau temps. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment intéressant.
Merci à vous.
Merci, Isabelle.
Notre prochaine invitée est enseignante en éducation physique et à la santé au secondaire depuis 10 ans à l'école secondaire Vanguard. Il est également entraîneur de flag football féminin et a aussi entraîné au football masculin, toujours au secondaire. Simon Brink-Boucher, bienvenue au balado.
Merci.
Première question très simple, Simon. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a mené vers l'enseignement en éducation physique et dans un deuxième temps, ben, quel genre d'ado t'étais, toi? T'étais un sportif?
Oui, donc j'étais sportif. Mais ce qui m'a amené là, en fait, je me cherchais un peu comme plusieurs adolescents. Puis j'ai décidé de partir en voyage. Et puis, il y a eu un moment où est-ce qu'on manquait un peu de sous. Donc, je me suis tourné en France pour devenir nounou, coach, hockey sur glace. Donc, pour une équipe à Paris. Et puis, le mélange des deux m'a amené à me questionner, à essayer l'éducation physique parce que j'adorais travailler avec des enfants. Et j'adorais aussi le côté de lien par rapport au sport. Ben, j'ai toujours été un enfant qui bougeait beaucoup, puis un adolescent qui adorait le sport. J'ai eu la chance, quand j'étais au primaire, d'aller à l'école Pierre de Coubertin, où est-ce que j'avais une heure d'éducation physique à tous les jours. Ça me permettait vraiment de m'épanouir un peu là-dedans. Puis ça a toujours été un endroit où je me sentais à mon aise, où je me sentais compétent, où tout était facile pour moi. Donc, c'est certain que je me suis... J'ai perduré là-dedans parce que le sentiment de compétence était là, puis le plaisir était là aussi.
Fait que toi, tu étais content quand le cours d'éduc arrivait, là?
Très, oui.
C'était le bon moment de ta journée.
Oui, exact. Okay. C'était le highlight de ma journée à chaque fois.
Super. Tu sais, toute la question des filles puis des garçons, là, tu l'as dit, c'était le highlight de ta journée quand tu arrivais au cours d'éduc.
Mais est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? Tu sais, tu le vois dans ton gymnase. Qu'est-ce que tu observes dans les comportements des filles et des garçons? Est-ce qu'il y a des différences par rapport, exemple, à la motivation, à la participation?
Ouais, si on y va dans les généralisations.
Ouais. Puis c'est correct de le faire. Hein. On sait qu'il y a certaines filles qui ne vont pas se reconnaître dans ce que tu vas dire là, puis c'est parfait aussi.
Et
là,
certains garçons
général,
aussi.
Certains garçons, absolument. Absolument. Ouais.
Donc oui, globalement, c'est certain qu'il y a des différences majeures quant à juste l'approche avec le cours. Là. Dès l'instant où je les vois arriver dans le cours, l'attitude qu'ils ont, les appréhensions qu'ils ont ou l'excitation qui vient avec, c'est très différent entre globalement, les garçons et les filles. Les filles vont avoir plus tendance à rentrer dans le gymnase, à aller s'asseoir. Les garçons vont avoir plus tendance à essayer d'aller jouer tout de suite, s'échauffer. Si on a le droit d'utiliser le matériel, ils vont être toutes parties. Les filles vont être assis plus sur le banc à attendre. Puis c'est quelque chose, en fait, que je remarque plus ils vieillissent. Quand on a des secondaires 1, par exemple, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'on ait plein de filles qui vont jouer et participer. Puis quand on est rendu avec des secondaires 4-5, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'elles aillent s'asseoir versus les garçons qui vont être...
Fait que toi, là, auprès des plus vieilles, auprès des adolescentes de secondaire 3, 4, 5, tu as un travail plus...
Ton défi plus grand.
Oui, ton défi plus grand.
Oui, dans la mesure où on peut utiliser ces occasions-là quand même pour... Moi, j'en profite pour essayer d'aller créer des liens avec eux autres pendant ce temps-là, discuter un peu, voir comment ça va globalement. Est-ce qu'il y a des choses externes qui font qu'aujourd'hui, ça va mieux ou moins bien, peu importe, ben, aller prendre le pouls un peu. Donc, j'en profite et je l'utilise, cet atout-là qu'on a, cette chance-là qu'on a dans notre
école. Cette occasion-là de créer le lien, hein, dans le fond, dans un gymnase, il y a quelque chose de beau dans le sens où peut-être qu'on est dans un environnement un peu moins formel que dans le cours de mathématiques avec des pupitres et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose de peut-être stressant aussi, par exemple, il y a des filles, hein, qui sont, je pense, inquiètes ou très stressées là, dès le moment où elles franchissent la porte du gymnase. C'est pas un environnement où elles se sentent confortables. Vois-tu ça?
Ben oui, absolument. C'est sûr que plus je vais être inquiet ou inquiète par rapport à la perception des autres, plus je vais avoir envie de m'en aller dans le coin, de me tasser, d'aller m'asseoir sur le bord du mur, puis d'être le moins possible à la vue pour être le moins possible le centre de l'attention par rapport à ça. Si je me sens bon, compétent, compétente dans ce que je fais, ben là, je vais peut-être l'essayer. On a juste à regarder, dépendamment des sports qu'on va faire, l'intérêt va être marqué. Si je fais du volleyball à la place de faire du hockey, par exemple, mais si je fais du hockey, les gars essayent tout d'aller prendre des bâtons tout de suite. Si je fais du volleyball, les filles vont aller faire des manchettes, des touches, jaser un peu. Plus de chances qu'ils aillent se pratiquer parce qu'il y a généralement un intérêt un peu plus prononcé.
Et là, ben, tu m'amènes vers la prochaine question. Le développement des compétences en éducation physique, c'est le savoir, savoir-être, savoir-faire, qui peuvent se développer de tellement pleine de façons. Vous avez le privilège, comme enseignant, toi et tes collègues, de vous asseoir puis de faire une planification qui peut répondre à pas mal toute votre clientèle. Est-ce que vous en profitez pour justement parfois sortir du fameux match de soccer, du fameux match de basket? Tu sais, les sports d'équipe qui reviennent souvent parce qu'ils sont souvent appréciés, mais il y a aussi... C'est pas toujours le cas.
Non, effectivement. Bien, c'est dur à dire. On a une certaine variété de moyens d'action qu'on utilise. Mais je pense qu'un peu comme n'importe quelle personne dans le milieu de l'enseignement, avec le temps qui avance, on reste ancré dans les mêmes pratiques un petit peu, puis ça devient de plus en plus difficile des fois de sortir de sa zone de confort. Fait qu'on essaie d'amener des nouveaux sports des fois, des nouveaux moyens d'action, des choses comme ça, mais on reproduit un peu ce qui nous a intéressés. Puis s'il y a peut-être un défaut dans le personnel à notre école, c'est qu'on est deux profs d'éducation physique au primaire, 6 au secondaire. Nous sommes tous des garçons. Il n'y a pas de filles. Fait qu'on n'a pas cette espèce de contrebalancier-là dans, mettons, nos planifications ou nos approches par rapport au cours. On se concentre beaucoup sur certains apprentissages, puis on essaie. Je travaille avec une clientèle qui a des difficultés graves d'apprentissage uniquement. Fait qu'on essaie de garder toujours le plus possible les mêmes moyens d'action au fil des années pour développer différents apprentissages, différents savoirs avec les mêmes balises, parce qu'en gardant le même cadre, c'est un peu plus facile de développer des techniques ou des stratégies, etc. Mais au détriment des fois des sports qui pourraient être moins intéressants pour certaines personnes et qu'on continue malgré tout à les faire sur plusieurs années.
Puis c'est vrai que le rôle, tu as nommé le fait que les profs d'éduc à ton école sont masculins. Ça se passe comme ça à ton école, mais je pense que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans plusieurs écoles au Québec. Puis il y a d'excellents enseignants en éducation physique et à la santé qui sont masculins puis qui sont capables, avec la qualité de relation, d'aller chercher les filles, là, on n'en doute pas. Je suis certaine que tu es un de ceux-là. Mais en tout cas, du côté des modèles, hein, il y a quelque chose dans le fait qu'à l'école, la personne qui représente le sport, qui représente l'activité physique, c'est souvent le garçon ou l'homme, en tout cas. Donc, c'est sûr que pour ce qui est des filles, des adolescentes, hein, c'est un petit peu plus difficile peut-être parfois de s'imaginer à prendre sa place là, dans le gymnase alors que c'est beaucoup, beaucoup occupé par les hommes.
Oui, c'est certain. Autant je peux essayer de créer des liens avec mes élèves, leur montrer différents modèles, je ne pourrais jamais être un aussi bon modèle pour une de mes joueuses au flag ou une de mes élèves qu'une fille qui aurait la même approche que moi pourrait avoir. Juste parce que c'est plus facile de se projeter dans la même situation ou de se projeter réussir quand tu vois quelqu'un qui te ressemble plus, qui réussit.
Mais on a besoin d'hommes alliés, par exemple. Alors, merci beaucoup d'être là pour ça.
On va pas arrêter.
Oui, puis je pense que tu vois cette sensibilité-là, justement, tu es à l'écoute et tu les vois, ces différences-là. Et dans ton quotidien, tu tentes justement de tendre la perche à ces filles-là qui, parfois, ont peut-être moins le goût ou sont plus craintives.
Ben, on essaie, oui.
Tu es prof d'éduc, mais tu es aussi entraîneur au flag football. Et là, je suis curieuse de savoir l'attitude des filles qui rentrent dans le gymnase pour le cours d'éducation physique versus celles qui arrivent à l'entraînement à quelques reprises par semaine. Les différences.
Ah ben c'est complètement différent. En fait. Le simple fait qu'elle soit là par choix, au flag football, comme dans probablement la plupart des sports où tu décides de t'inscrire volontairement. Ben, elles arrivent, elles s'échauffent, elles vont se pratiquer. J'en ai dans... Même les mêmes filles que j'ai au flag et à qui j'enseigne ont des attitudes complètement différentes une fois qu'elles se joignent à l'équipe. Fait qu'au courant de l'année, on commence les pratiques. Il y a des élèves qui n'avaient jamais joué avant au flag, commencent à jouer au flag, arrivent dans les cours après, puis elles sont plus motivées aussi. Mais l'intérêt est déjà là, la motivation est là, puis ils savent que c'est un espace aussi où il y a, à part moi, il y a juste des filles. Elles se donnent plus droit à l'échec parce qu'elles sont seulement entre elles. On s'assure qu'il n'y a personne d'autre non plus qui vienne s'en mêler, voir, les juger aussi d'une autre façon. Donc, on sépare complètement. On est rendu avec une équipe de flag football masculine aussi, mais on sépare dans des gymnases différents pour plein de raisons, mais entre autres aussi parce que c'est plus facile de rester avec notre groupe de filles puis de rester au niveau où est-ce qu'elles sont à ce moment pour les amener plus loin sans avoir à se comparer avec d'autres gens, mais juste entre elles. Fait que ça amène un aspect qui est plus facile dans la motivation aussi.
Mais ça, cette mixité-là, hein, c'est toute une discussion, mais je pense qu'on a suffisamment de preuves scientifiques qui nous montrent que l'engagement des filles dans le sport va être augmenté quand elles se retrouvent entre elles. Donc, c'est pas nécessairement le chemin à prendre dans toutes les occasions, dans tous les sports ou dans tous les contextes, mais je pense que tu es capable de voir à quel point ça peut faire une différence. Vous avez décidé d'y aller comme ça, alors clairement,
ouais.
Ça fonctionne pour vous.
Oui, c'est des choses qu'on fait même des fois dans les cours, dépendamment des sports. Quand on voit que les niveaux d'habileté sont très différents à l'intérieur d'un même groupe, on va souvent y aller avec des niveaux où des fois on va séparer garçons-filles. Ça dépend des cours. Des fois, on va garder tout le monde ensemble. Ça dépend des situations vraiment, mais on voit une différence majeure. J'ai commencé une séquence de Ultimate avec un gros groupe mixte. On est trois groupes mis ensemble. Puis quand on a commencé à séparer les filles des garçons, puis on a gardé juste les filles d'un côté, ben le niveau d'intérêt, d'effort, d'attention, ouais, l'engagement ouais. global a augmenté beaucoup. Leur participation dans le jeu, des élèves là, qui depuis le début de l'année ne faisaient rien en éducation physique, étaient en situation d'échec par manque de motivation, puis aucune tentative d'essayer, là, se sont retrouvés à pratiquer, découvrir que finalement, ils étaient peut-être pas si mauvaise que ça, puis qu'en pratiquant un petit peu, ah ben ça se développait quand même plus rapidement qu'ils pensaient, puis elle commençait à avoir du plaisir. Fait qu'il y a des situations où c'est magique un peu. Là. Le changement est tellement grand que on a envie quasiment de l'essayer tout le temps là, par moment.
Oui, ça se fait progressivement. Il
ouais.
faut être patient.
Oui, exact.
Simon, ça a vraiment été un plaisir de te recevoir. Merci d'être passé au balado.
Mais merci de m'avoir invité.
Merci.
Notre prochaine invitée enseigne la danse depuis plus de 20 ans à des adolescentes, tant au niveau récréatif que compétitif. Elle est également coach de la troupe de danse CLIQ qu'on a pu voir à l'émission Révolution. Joëlle Bourdeau, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup.
Joëlle, 20 ans d'enseignement dans la danse, ça veut dire que des jeunes adolescentes t'en ont vu passer dans tes studios. Qu'est-ce qui fait que les filles reviennent, elles se réinscrivent d'année après année? Comment tu réussis à les retenir?
Je pense que le secret, c'est vraiment le plaisir avant tout. La danse, c'est vraiment une activité qu'on fait dans le but d'avoir du fun. Que ce soit en récréatif ou en compétitif, il y a toujours un plaisir qu'on peut aller chercher avec ça. Que ce soit, peu importe son objectif, si c'est le fait qu'on retrouve nos amis là-bas ou le fait que... on fait des compétitions puis qu'on atteint nos objectifs. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'y retirer du bonheur puis d'avoir du fun avec sa gang. C'est vraiment, je pense que c'est ça le secret pour lequel, dans le fond, c'est pour ça qu'on se réinscrit après, parce qu'on a eu du plaisir à faire notre session de danse.
Ça a comme l'air tout simple hein, quand on dit ça, le plaisir. Hein, puis c'est ça qu'on va vouloir voir avec toi, explorer, Joëlle, avec toi, parce que toi, en tant qu'adulte,
t'as un rôle important.
Es-tu la chef du plaisir? Comment on fait ça pour qu'il y ait du plaisir?
Je pense que... la responsabilité se divise un peu. Il y a le rôle beaucoup du coach, de l'entraîneur, du prof de danse. Il y a aussi une partie qui est au niveau du parent. Je pense que c'est premièrement de trouver un studio qui convient à nos valeurs, à nos besoins. Puis ensuite, je pense qu'en tant que coach, en tant qu'entraîneur, c'est de s'assurer justement qu'il y a une rigueur, qu'il y a une discipline qui est là, qu'il y a un cadre, parce que les ados ont besoin d'être encadrés pour se sentir en sécurité, mais de s'assurer que tout le monde a du plaisir, justement, puis qu'il n'y a pas de... que les exigences ne deviennent pas trop intenses, même s'il y en a, même s'il y a un but à atteindre, même si on veut arriver à notre spectacle, on veut arriver à notre compétition, on veut juste terminer notre chorégraphie, peu importe quel est l'objectif, c'est important que ça se fasse dans un environnement qui est sain, puis qu'on s'assure que le stress que ça peut engendrer ne devient pas justement quelque chose de toxique, quelque chose de trop intense, puis que l'expérience qu'on a est agréable.
Oui, parce que les jeunes adolescentes ont tendance à être d'abord très sévères envers elles-mêmes, puis en plus, dans un studio de danse, il y a des miroirs partout. Hein,
exact.
Donc, notre image, elle est projetée constamment. Et on a tendance aussi à se comparer aux autres. Mais toi, ton rôle comme entraîneur, c'est d'assurer que les relations restent, tu l'as dit, saine, mais aussi bienveillante. Quand on rentre dans l'aspect de la compétition, par exemple, comment tu réussis à venir tempérer tout ça pour garder cette belle atmosphère-là?
En partant, je pense qu'un studio de danse, ça devrait être un safe space. Tout le monde est là pour apprendre, puis c'est vraiment un lieu où tu as droit à l'erreur. Puis quand tu ne te donnes pas droit à l'erreur, tu n'évolues pas. Fait que, tu sais, je donne souvent un exemple extrême. Si tu veux réussir à faire une roue sans main, faut que tu te plantes une couple de fois, mais faut que tu l'essayes. Si tu ne l'essayes pas, tu ne vas juste pas y arriver. Tu sais. Peu importe là, j'ai nommé ce mouvement-là, mais dans n'importe quel contexte, il faut se donner le droit à l'erreur. Il faut se donner le droit de se planter, entre guillemets. Donc, je pense que vu qu'on est tout le monde dans le même bateau, dans le studio de danse, tout le monde est là pour apprendre. C'est un environnement où c'est quand même sécure parce que tout le monde a droit à l'erreur, puis c'est correct d'en faire, puis on est là pour évoluer ensemble.
Je sauterais peut-être là-dessus, justement, parce que se donner le droit à l'erreur, c'est formidable. Hein? C'est tellement important qu'un adulte nous donne cette permission-là, parce que quand on est une adolescente puis qu'on manque un peu d'estime de soi, hein, on a l'impression qu'on est poche. Hein? On l'entend beaucoup chez les adolescentes, hein? ce jugement sévère qu'on porte envers soi-même. Émilie, tu le disais. Donc, ce contexte-là, là, où est-ce que tu leur donnes le droit à l'erreur, je pense que c'est vraiment une clé, là. Bravo. En tout cas, faut l'exprimer, faut le dire avec des mots ou ça se passe dans la façon d'être? Comment concrètement ça se passe?
Je pense qu'on trouve notre façon. Des fois, c'est eux-mêmes qui le réalisent. T'sais, je vais donner un exemple concret. Si les élèves m'ont fait leur danse puis c'était vraiment pas ce que je m'attendais puis que c'était pas si bon, des fois, je fais juste les regarder avec un petit sourire puis eux-mêmes, ils font comme « Ouais, c'était pas très bon, on va le refaire. » Fait que je pense que des fois, d'ajouter l'humour aussi à ça, ça aide de dédramatiser aussi. Mais ouais, d'accepter que on n'arrive pas à un but précis dans un chemin qui est parfaitement droit. Il va toujours avoir des petites courbes un peu partout. Fait que c'est juste d'accepter « Ah, ben t'as voulu essayer ta triple pirouette, t'es tombé à terre, mais t'es tombé à terre parce que tu l'as essayé. Donc, tant mieux. Ça veut dire que la prochaine fois, ben, tu vas réajuster. Puis... »
Fait qu'on félicite ça, puis on l'encourage en même temps.
Ben, je pense que oui. En fait, c'est de donner le droit, tu sais. Fait que, puis de pas taper sur la tête, puis que les élèves se tapent pas sur la tête quand ils ratent quelque chose. Je trouve que le milieu de la danse aussi, il y a tellement d'aspects. Puis c'est facile pour eux de se dire « Ah non, je l'ai pas eu, je me suis trompée. » Ben oui, tu t'es trompée dans l'enchaînement, mais tu avais une super belle expression faciale, tu étais vraiment énergique, tu faisais des grands mouvements, mais tu t'es trompée. Mais OK, c'est un aspect, tu t'es trompée dans une affaire, tu sais, fait que c'est... Oui, des fois, ça arrive qu'on fait des erreurs, mais il y a plein d'autres choses aussi qu'on réussit. Fait que c'est important de focusser aussi sur le positif. De faire un petit balan entre les deux, je pense. Autant du renforcement positif que justement de la correction quand on veut que ça améliore.
Et je vais te poser la question comme prof de danse, mais aussi tu vas peut-être pouvoir revenir sur ton expérience personnelle parce que tu as dansé aussi probablement à une époque.
Oui.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un environnement qui va être favorable à une jeune fille qui va vouloir se dépasser, se développer, s'épanouir, ou peut-être la compétition va être présente, versus un environnement qui va devenir malsain où le stress est trop présent et conséquemment qui va peut-être mener à un abandon?
Je pense que d'abord, ça va partir de où ça vient. Si c'est quelqu'un qui nous impose justement un mode de vie plus compétitif, je pense qu'à un moment donné, ça s'essouffle un petit peu. Mais quand ça part justement d'un désir de l'élève puis justement d'un cercle d'amis ou de le lien qu'on a avec le coach, l'environnement dans lequel on évolue, c'est sûr que ça peut faire une grosse différence selon moi. Les gens qui finissent par abandonner, des fois, c'est justement le milieu dans lequel ils se trouvent. Peut-être que ça ne concorde pas avec leur personnalité à eux. Peut-être que ça vient d'une mauvaise place. Justement, je donne l'exemple cliché d'un parent qui pousse trop, par exemple, pour l'enfant. Des fois, ça vient aussi d'une anxiété de performance. Moi, j'en faisais beaucoup quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de danser, pas au complet, mais j'ai vraiment diminué parce que j'avais besoin d'une petite pause parce que moi-même, je me mettais trop de pression. Puis c'est ça, pour ceux qui font de la compétition, moi, je pense que ce que je leur dis souvent, c'est d'essayer d'être en contrôle de ce qu'eux ont le contrôle, dans le fond. T'sais, quand ils arrivent en compétition, ils sont en pleine possession de leurs moyens sur leur chorégraphie à eux, mais ils n'ont pas de contrôle sur ce que les autres vont arriver avec. T'sais, donc,
sur ce que les juges vont penser.
Exactement. Fait qu'ils ont le contrôle de leur danse à eux, leur performance à eux, mais après ça, les autres groupes, les autres danseurs, avec quoi ils arrivent, c'est peut-être meilleur. L'idée est peut-être plus originale, leur niveau est peut-être plus fort ou peut-être pas non plus. Les juges, peut-être qu'ils ont une préférence pour telle ou telle affaire, mais ça, c'est pas de leur contrôle. Fait que c'est de focusser sur ce qu'on fait nous, puis d'être fier de ce que nous, on a fait. Donc, si on sort de scène, puis on se dit, ben moi, j'ai tout donné, j'ai fait vraiment de mon mieux, puis je suis vraiment fier de moi. Après ça, que tu sois dernier ou premier, l'important, c'est est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Parce que les autres facteurs, ce n'est pas des choses qui sont en ton contrôle. T'sais.
Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une frontière ou une mince ligne entre un défi qui demeure stimulant et motivant. Hein. Il est question de motivation aussi dans cet épisode-ci. Et puis, donc, un défi qui est un peu... qui est à notre portée. Hein, c'est un petit peu ça ce que tu décris, c'est ce qui nous motive à persévérer puis à continuer. Mais d'un autre côté, si on franchit cette frontière ou si on pousse un peu trop loin, hein, là, à ce moment-là, on tombe dans un stress ou dans un environnement qui devient moins stimulant ou dans lequel on se sent moins bien. Donc, ton rôle à toi en tant qu'adulte, c'est toujours de naviguer là, sur cette frontière-là, la motivation versus un stress qui deviendrait
difficile
à gérer.
Oui, c'est pas évident parce que l'inverse est bon aussi. Quelqu'un qui veut vraiment pousser, mais qu'on laisse dans un niveau plus faible.
Ça peut être démotivant.
Ça peut être démotivant, vraiment. Ouais. À chaque année, il y a beaucoup d'élèves à qui je dois parler, puis je leur explique pourquoi je les vois là, puis qu'est-ce que je vois pour eux. Mais je pense que c'est ça. L'important, c'est juste de communiquer avec eux le plus possible, justement pour garder la motivation. C'est super important.
Et au final, ce sont des êtres humains. Donc oui, on a un résultat, on a un objectif, mais on doit se rappeler que ben, ce qu'on avait comme objectif au départ puis ce que les objectifs sont devenus, ça peut aussi changer ça pour un jeune. On doit revenir sur la performance de la troupe Click que tu entraînes là, à l'émission Révolution l'automne dernier. Une chorégraphie où le thème de l'anxiété a été abordé, a été illustré. La question qui tue, est-ce que c'est les filles qui ont senti ce besoin-là de l'exprimer?
Rendu à cette étape-là dans Révolution, dans le fond, il faut raconter une histoire personnelle. C'est quand même assez compliqué quand tu as 6 personnes, ouais. Parce que là, ils ont toutes des histoires différentes. Mais avec tout ce que j'avais vécu avec eux dans les mois d'avant, je trouvais que c'était un sujet récurrent, tu sais, en parlant avec certaines filles, en voyant des comportements, en entendant des choses. Fait que c'est moi qui s'est assis pour dire comme qu'est-ce que vous en pensez. Il me semble que ça fitrait vraiment avec vous. Puis là, les yeux se sont illuminés. On s'est assis, on a fait un cercle, on a discuté ensemble. Puis c'est là qu'on a pu partager. Moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment beaucoup d'anxiété aussi. Fait que c'est un sujet qui me rejoignait vraiment moi aussi. Fait que ça a vraiment tout déboulé vraiment facilement parce que tout le monde se sentait extrêmement concerné par le sujet. Il y avait peut-être une ou deux filles un peu moins anxieuses que les autres dans le groupe, mais le fait de vivre l'anxiété des autres, ça faisait que le sujet les rejoignait aussi. Donc, pour nous, c'était comme un peu une évidence de parler de ça. Ça s'est vraiment fait naturellement, en fait.
Puis vous l'avez rendu en chorégraphie, mais la démarche derrière ça, est-ce que vous avez pris le temps de vous asseoir avec les filles et de partager, jaser, définir ce qu'est l'anxiété, comment elles la vivent?
Oui, absolument. Justement, on s'est assis, puis il y en a qui m'ont écrit des messages privés aussi pour me raconter un peu leurs histoires personnelles. Puis on a fait un cercle, tu sais, une bonne heure, puis on a vraiment discuté. Chacune a pris le temps de parler pour voir... pour donner sa vision, pour raconter quelques histoires personnelles. Fait que ça nous a inspirés après ça pour la chorégraphie. Puis après ça, ça a été tellement facile pour elle d'intégrer l'émotion. Ça venait tout seul parce que c'était comme leur histoire en même temps. Donc non, c'était vraiment beau à voir. Ça a été un gros point tournant, là, cette chorégraphie-là.
Bien, c'était effectivement tellement magnifique. Puis j'ai eu la chance de jaser avec deux des danseuses, oui, qui faisaient partie de la troupe. Puis je pense que ce qui est vraiment magnifique, c'est de constater à quel point les adolescentes sont capables d'exprimer de mieux en mieux, peut-être, puis peut-être mieux qu'à d'autres époques, leurs émotions. Alors, quand on parle d'anxiété puis tout ça, l'objectif n'est pas toujours non plus de dramatiser hein, la situation, mais de réaliser que les jeunes aujourd'hui ont une belle facilité à être en contact avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur puis être capable de l'exprimer. Alors, des fois, comme adultes, ça nous inquiète un peu hein, parce qu'on a l'impression que les jeunes sont très stressés ou vivent plusieurs symptômes anxieux, mais peut-être que, contrairement à d'autres générations, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui sont plus capables ou ont plus de facilité à exprimer ça. Puis peut-être qu'il y a un chemin vers le fait de se sentir mieux ensuite. Donc, je les applaudis, ces jeunes-là qui sont capables de
mais
faire
moi,
ça.
Mais moi, je peux voir juste avec moi la différence. Moi, à leur âge, je ne parlais pas de ça. Fait qu'on dirait que c'est comme de plus en plus normalisé. Ouais. Puis les filles, on dirait que là, c'est comme, ils savent qu'ils sont comme ça, ils savent qu'ils vont toujours être comme ça, mais que le fait de l'avoir nommé rapidement, c'est comme de dire, ben moi, je suis comme ça, je vais l'accepter, puis je vais me trouver des outils puis des moyens pour apprendre à mieux vivre avec. Fait que non, moi aussi, je trouve ça absolument extraordinaire, vraiment.
Puis puisque l'art et puis le sport, je pense que ce sont de belles façons,
bien, ouais.
Hein? Ce sont de belles façons de se faire du bien quand on vit du stress puis de l'anxiété. Bien, avec la danse, on a un peu la jonction entre les arts et le sport. Alors, c'est beau qu'elles aient été capables d'exprimer tout ça grâce à
exactement.
Toi, grâce à cette participation-là formidable aussi.
Oui, bien, tu l'as dit, dans le fond, la danse, c'est vraiment un mix des deux. Tu sais, on bouge son corps, on est actif, c'est vraiment un sport, mais il y a tout le côté artistique, le côté émotionnel qui embarque. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que la danse, ça, on peut en faire ce qu'on en veut, on peut en faire une carrière, on peut faire ça comme activité le soir, juste pour le fun avec ses amis, on peut faire ça en compétition. Tu sais, il y a tellement. La danse, ça permet tellement d'options.
C'est libérateur aussi.
Exactement. Fait que n'importe qui peut danser à n'importe quel âge. Il y en a tellement que entendre qu'ils disent « Ah non, j'en ai jamais fait, je suis trop gênée pour commencer. » Mais il y a des groupes de débutants à n'importe quel âge, là, tu sais, fait que c'est... Il n'est jamais trop tard pour commencer à danser.
Bon, ça y est, j'ai le goût. On s'inscrit, Emily.
Moi, je suis plus hip-hop, toi.
Hip-hop, correct.
OK,
yeah.
Parfait. Jeanne, merci infiniment d'avoir participé au balado.
Merci beaucoup à vous.
Geneviève, je réalise en ayant écouté nos invités que chaque adulte qui gravite dans l'entourage d'une adolescente a un rôle à jouer. Ils ont tous un rôle distinct. L'entraîneur n'est pas le parent n'est pas l'éducateur physique, sauf qu'ils ont tous quelque chose à apporter de bien.
Ben oui, puis si on se ramène à notre première invitée, la chercheure professeure Isabelle Doré, elle nous l'a dit à quel point la qualité des relations sociales, hein, le social est un motif de participation au sommet de la liste pour ce qui est de nos adolescentes. Alors comme parent, moi ce que je retiens, c'est peut-être d'ajouter plus de gangs ou d'ajouter plus d'amis là, dans les contextes puis les occasions de pratique de sport ou d'activité physique de mes enfants. Ajouter des relations sociales qui sont signifiantes avec des adultes, avec des ados, dans un contexte où on veut les encourager à persévérer puis peut-être même à démarrer là, une nouvelle trajectoire de sport ou d'activité physique.
Ce balado est produit dans le cadre du programme Bien-être Filles Actives, propulsé par Beneva. Pour plus de contenu, visitez lefillesactives.ca.